On vient d'entendre deux témoignages de personnes de deux endroits différents. Kamala au Népal, qui est un nom qui est pas son vrai nom, mais qui a été utilisé. Et puis ce pasteur, Omar du Mozambique. Deux situations différentes, mais les deux ont dit, l'Éternel m'a secouru. Les deux aussi ont vécu des situations différentes dans leur approche de la foi. Et ce matin, on va voir que Dieu utilise la persécution pour nous ramener à dépendre de lui. On va reprendre l'histoire de Kamala et on verra des textes de l'Écriture qui peuvent ressembler à ça. Et puis on verra ensuite on reprendra l'histoire d'Omar et on verra aussi des textes qui peuvent parler de ça. Et on va voir que quelle que soit notre vie chrétienne, avec des hauts ou des bas, Dieu veut et peut utiliser la persécution dans le but de nous ramener à lui, de dépendre de lui et de proclamer l'Éternel nous a secourus. Kamala, on l'a entendu, Kamala le dit dans son témoignage qu'a résumé Oulé, Kamala a fait un mauvais choix. Kamala a fait un mauvais choix, elle a épousé un homme hindou qui la détourne progressivement du Seigneur et elle dit elle a passé des moments de grande souffrance, cette femme. De très grandes souffrances. Elle dit aussi à mon ex que sa vie de famille a sombré. Elle dit, j'ai réalisé que le chaos de ma vie était une conséquence de ma désobéissance. J'ai décidé de me repentir et de revenir à la foi. J'ai commencé à aller à l'église secrètement. J'ai cessé toute pratique des rituels hindous. Elle se repent et revient à Dieu. Lorsque son mari apprend sa repentance, apprend qu'elle est en train de retourner à l'église, en train de revenir à ce qu'elle était, hein, avant de faire ce choix de l'épouser, elle se met à être persécutée verbalement, psychologiquement, physiquement. La belle famille de Kamala la maltraite. Mais Dieu prend soin d'elle. Mais Dieu prend soin d'elle. Dieu est là, il la restaure. Et Kamala a dit, aujourd'hui je suis heureuse et je vois la joie de vivre grâce à Christ. Dans l'Écriture, nous pouvons voir quelques similitudes, je vais dire, avec Kamala. L'histoire du peuple d'Israël a pratiqué souvent la désobéissance et les conséquences de la désobéissance ont été de la souffrance, des situations chaotiques, et en même temps, c'est ça le paradoxe avec Dieu, et en même temps, la persécution a été un moyen voulu par Dieu pour ramener le peuple à dépendre de lui. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans un passage de l'Écriture qui était cité, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, dans 1 Samuel 7. Prenez 1 Samuel 7, verset 1. Et nous irons jusqu'au verset 12. Je vais lire le passage, je replanterai un peu le décor, je planterai un peu le décor après la lecture du passage. Les gens de Kirjath-Jéraïm vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab, sur la colline, et ils la consacrèrent. Il a consacré son fils Élazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéraïm. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel, poussa des cris, si vous voulez. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous des dieux étrangers, les Atartès, ou les Baals, en fonction de vos traductions, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Philistins. C'était les ennemis d'Israël à cette époque-là. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Atartès, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpa, et je prierai l'Éternel pour vous. Ils s'assemblèrent à Mitzpa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblée à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent des Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Betkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela du nom de Eben Ezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Cette histoire qu'on est en train de lire ou qu'on vient de lire à l'instant, c'est une histoire qui est en train de finir, de clôturer le livre que vous connaissez peut-être, le livre des juges. Le livre des juges, souvent, ça s'appelle les montagnes russes ou l'histoire en dents de scie. Hein, ça fait ça, ça, ça. Vous lisez le livre des juges, ça monte, ça descend. Ça fait que ça. Pourquoi ça fait que monter et que descendre? Pourquoi c'est des cycles? Parce que Israël s'éloigne de Dieu en adorant d'autres dieux, en ayant des idoles. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus la bénédiction ni la protection de Dieu. Les ennemis d'Israël prennent le dessus et maltraitent le peuple de Dieu. Et puis voilà, Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans sa bonté, emmène un homme qu'on appelle un juge, qui est là pour rappeler le peuple à Dieu. Abandonnez vos idoles, arrêtez tout ça, revenez à Dieu, revenez à Dieu. Le peuple fait ça, le peuple vit la protection, vit le repos, vit des temps de paix. Et tout le long de juge, par année de 30 ou 40 ans, ça fait que ça. Ça monte et ça descend. Israël avait une mauvaise compréhension de Dieu. Dans le livre des juges, et dans cette période où nous sommes, qu'on vient de lire dans 1 Samuel 7, Israël avait une mauvaise compréhension de Dieu. Il se réjouissait de la présence de Dieu, mais il honorait mal. Il honorait mal, pourquoi? Leur vie était plus de la superstition que de la foi obéissante. Ce qui peut être encore aujourd'hui, chez nous, de la superstition plutôt qu'une foi obéissante. Pourquoi une foi superstitieuse? Parce qu'ils avaient pris l'arche de Dieu comme un petit gris-gris. L'arche de Dieu, ils pensaient qu'il n'y avait que ça qui était important pour les protéger, au lieu de comprendre que c'était leur foi, leur vie authentique qui devait s'accrocher à l'Éternel. Et voilà que, quand on lit 1 Samuel 7, les trois chapitres avant, il s'est passé quelque chose d'assez particulier et grave. L'arche de Dieu n'est plus en Israël. L'arche de Dieu, lors d'une bataille entre Israël et les Philistins, a été prise par les Philistins et emmenée par les Philistins. Et c'est la panique en Israël. Mais ça ne peut être qu'en Israël. Quand l'arche de Dieu part, il y a un homme, un prophète, qui s'appelle Élie. On arrive, on lui dit à Élie, l'arche de Dieu a été prise, elle n'est plus là, elle n'est plus en Israël. On lui dit, tes deux fils sont morts aussi. Dans le texte qui est choquant, je dis choquant, c'est que ce qui va faire tomber littéralement Élie, le faire mourir parce qu'il est choqué de la nouvelle, ce n'est pas la mort de ses deux fils, c'est que l'arche de l'Éternel n'est plus là. C'est l'alliance avec Dieu qui est touchée. Et cet homme tombe et sa belle-fille va dire ceci, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Dans sa souveraineté, dans sa toute-puissance, Dieu va démontrer qu'il n'a pas besoin de l'être humain pour montrer sa puissance, et il va faire quelque chose de particulier. Donc, les Philistins sont contents, ils ont récupéré l'arche de Dieu, elle est dans leur camp, ils sont contents de ça. Mais voilà, ils arrivent un matin, l'arche de Dieu à côté de leur Dieu à eux. Ils trouvèrent Dagon, donc le dieu qui était un dieu référence pour ce peuple-là, étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Donc imaginez l'arche de l'Éternel qui, eux, ils sont ramenés, ils sont tout contents. Elle est là, mais leur dieu à eux, il est tombé. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Il ne restait que le tronc. Et à partir de ce moment-là, les Philistins ont peur et veulent se débarrasser de l'arche. Dieu est en train de montrer, ma place, elle n'est pas ici. Ma place, elle n'est pas ici. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils sont en train de dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et du coup, ils disent, la bonne question, c'est que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Et c'est Dieu qui est en train d'œuvrer derrière, même chez l'ennemi. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez, vous serez pourquoi sa main n'est pas retirée de dessus vous. Donc même Dieu est en train de toucher le cœur de ses ennemis pour qu'il renvoie l'arche de Dieu à Israël. J'épargne un peu le sacrifice qui est un peu particulier, je ne vais pas m'attarder dessus ce matin. Et voilà, on arrive dans notre chapitre 7. On arrive dans notre chapitre 7, donc tout ce que je viens de vous présenter là, c'est ce qui se passe avant d'arriver au chapitre 7, avant que l'arche revienne en Israël. Ok ? Avant que le peuple de Dieu se repente. Le peuple de Dieu va prendre au moins 20 ans avant de se repentir quand l'arche va revenir. C'est long, 20 ans. Ils continuaient à vivre dans la désobéissance, ils subissaient l'oppression, mais à un moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de la désobéissance. Ils n'en peuvent plus de tout ça. Comme Kamala. Kamala, elle connaissait Christ. Elle avait fait des mauvais choix. Mais sa vie est chaotique. Elle n'en peut plus. Elle crie à Dieu. C'est ce que nous avons lu. Les gens de Kirjat Jearim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel, donc tout ce qu'on vient de voir. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinibab, sur la colline. Ils consacrèrent son fils Élazar pour garder l'arche de l'Éternel. Juste la garder. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjat. 20 années s'étaient écoulées depuis le retour. Alors, toute la maison d'Israël, enfin, poussa des gémissements vers l'Éternel. Ils vont enfin plier le genou. Ils vont enfin crier à Dieu. Suite à ça, nous l'avons lu, un homme du nom de Samuel, un prophète, le dernier des juges, va être un outil entre les mains de Dieu pour guider, pour rappeler le peuple à Dieu, pour lui dire, il est là encore, ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous avez été rebelles, vous avez désobéi, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Dieu a utilisé cette persécution, cette souffrance pour vous faire revenir à lui, parce que l'objectif final, c'est de revenir à l'Éternel. Et il va les encourager à ceci. Si de tout votre cœur, vous revenez à l'Éternel. Plusieurs choses. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Les Atates, je suis désolé, je ne sais pas comment ça peut se prononcer ce truc-là. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Les paroles de Samuel montrent quelque chose de très profond ici. Elle montre une démarche qui doit être sincère. La persécution des Philistins est la conséquence de leur désobéissance. Et en même temps, cette persécution est le moyen voulu pour Dieu de leur dire « Revenez à moi ». Voyez ça le paradoxe. En même temps, cette persécution est la conséquence de leur désobéissance, mais Dieu utilise aussi cette persécution-là pour les amener à crier et à revenir à lui. Revenez à moi, débarrassez-vous de tout ce qui prend ma place, servez-moi. Qu'est-ce que va répondre le peuple? Très intéressant. C'est des questions que Dieu peut nous poser des fois, ça, dans certaines situations de nos vies. Voilà ce qu'ils vont dire, voilà ce qu'ils vont faire. Ce qui est assez rare des fois avec Israël. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Atartès, et ils servirent l'Éternel. Seul. Parce que des fois, ils ont servi l'Éternel, mais en continuant à faire leur pratique à côté. Là, c'est, ils servirent l'Éternel seul. Seul. C'est un signe visible de repentance. Ils se débarrassent de leurs idoles. Ils redonnent l'exclusivité à Dieu. Et même, on verra, ils engagent un jeûne. Mes amis, quand vous êtes attachés pendant des années, peut-être 20, 30 ou 40 ans, à une façon de vivre, un fonctionnement idolâtre, Et jusqu'à présent, cela ne vous dérangeait pas. C'était le cas d'Israël. Cela ne les dérangeait pas de vivre dans l'idolâtrie, dans leur péché, même de le justifier. Cela ne les dérangeait pas. Ils avaient leur gris-gris, l'arche de l'Éternel. Mais là, elle est partie. Et même quand elle revient, pendant 20 ans. Mais maintenant que vos yeux s'ouvrent, parce que là, pour moi, il y a une grâce particulière de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi de la part de notre Dieu. Les yeux s'ouvrent de ces hommes et de ces femmes sur leurs idoles, pas sur ceux de leurs voisins. Chacun est en train de prendre conscience qu'il a un cœur idolâtre, que la façon de fonctionner, d'adorer les autres dieux, n'est pas ce que leur Dieu veut. C'est puissant. C'est puissant, c'est même merveilleux. Quand on note un fonctionnement idolâtre de sa vie, mes amis, c'est puissant, c'est merveilleux, c'est extraordinaire en fin de compte. Parce que notre cœur est une fabrique à idoles. C'est ça notre cœur humain. Et là, le peuple de Dieu va ôter tout ça. Plusieurs de ces idoles en Israël, quand je viens de citer, étaient liées à la sexualité ou au profit. Tous ces dieux ou déesses les amenaient à pratiquer des actes immoraux, en plus de ne pas reconnaître que Dieu est suffisant. Alors c'est sûr qu'il n'y a plus aujourd'hui en Occident ce genre de dieux-là. Baal et Astartès, je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont ces dieux-là, ou même si vous avez ces dieux-là, vous, ou vos idoles, je ne pense pas. Mais les idoles de la sexualité et du profit portent d'autres noms aujourd'hui. Portent d'autres noms, mes amis, dans nos vies. Sans oublier le moi qui est au centre de l'existence de l'individu, qui se considère comme un dieu voulant son autonomie. Et définir ce qui est juste selon son existence. C'est peut-être ça l'idole le plus dangereux de nos vies. C'est peut-être lui en fin de compte. Mais ça, on n'en parle pas. Ça, on n'en parle pas. Surtout pas dans notre société. Qui est construit là-dessus en fin de compte. Que fait Dieu ? Suite à cette repentance. Que fait Dieu suite à ces cœurs qui voient ça et qui veulent se retourner, qui veulent abandonner? Que fait Dieu? Dieu, il les accueille. Dieu les accueille. Il n'est pas en train de leur refaire tout un schéma de leur passé. Merci Seigneur. Il les accueille, c'est ce que le prophète dit. En nous disant, Samuel, il les accueille. Assemblez tout Israël à Mispa. Et je prierai l'Éternel pour vous. Voilà le cœur de Dieu. Je vous accueille. Je vois votre démarche sincère. Je vous accueille. Parce que vous êtes mon peuple, je vous aime. N'oubliez pas Israël. Vous n'avez rien fait pour que je vous choisisse. Strictement rien. Je vous ai choisi parce que je vous aime. À cause de mon amour, dit le texte en Deutéronome 6. Samuel, en tant que prophète, en tant que juge, en tant qu'homme qui souffre, parce que lui on n'en parle pas, mais il souffre. Hein. Il prie pour ce peuple, comme l'a fait Moïse, comme l'a fait Néhémie, comme l'a fait Jérémie, et surtout comme le fait notre Seigneur Jésus-Christ au quotidien pour son Église, et pour moi, et pour toi. Cet homme va crier à Dieu, il va remettre le culte à sa place. Il y a un retour au culte pendant ce rassemblement parce que l'arche de l'Éternel va être au bon endroit. Et le peuple continue à faire une belle démarche. Ils obéissent et reconnaissent leurs péchés. Ils s'humilient. Ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça veut dire cette expression, mais je pense qu'il y a un lien avec la reconnaissance de la purification. Ils vont jeûner et ils vont dire « Nous avons péché ». Contre l'Éternel, Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpa. Nous avons péché contre l'Éternel. Le peuple s'humilie. Le peuple s'humilie. Pendant qu'ils sont en train de faire ça, la persécution continue. Ils sont en train de revenir à Dieu. Ils sont en train, on pourrait dire, ça y est. Mais la persécution continue. Comme Caméla, quand elle est revenue à Christ, la persécution a continué. Persécution a continué. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpa Les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. C'est normal. Il dira à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, c'est leur référence, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel, donc un sacrifice qui est présenté. Il cria à l'Éternel pour Israël. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Ils sont en train de revenir à Dieu. Ils sont en train de remettre un système de culte qui est bon. Ils mettent leur vie en règle. Et la persécution continue. La persécution est là. Alors que fait Dieu? Que fait Dieu par rapport à ça? Tout comme il a pris soin de Camilla, il a trouvé une église, des gens qui ont pris soin de lui, d'elle. Elle a retrouvé cette joie malgré tout ce qu'elle a enduré. Alors Dieu a pris soin aussi de son peuple. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Il les mit en déroute, ils les furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Dieu accorde une pleine délivrance à son peuple. Et je dirais que cette victoire confirme le bon accueil que le Seigneur a accordé au peuple repentant. Et c'est en même temps le rétablissement d'Israël avec Dieu par son alliance. Il y a quelque chose qui revient là, qui avait été froissé. Et pour se souvenir de cela, il y a un moment particulier. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Shen. Il appela du nom d'Ebenezer en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » On parle de commémoration de victoire, un signe de reconnaissance à Dieu. Dans l'Écriture, ce genre d'action est très importante. Le souvenir pour Dieu, c'est quelque chose de très important. Il sait qu'on est des auditeurs oublieux, mais il met en place souvent dans l'Écriture des petites choses comme ça pour qu'on se souvienne, pour qu'on revienne. Et quand il dit « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus », il n'est pas en train de parler que de cet événement-là. Il est en train de rappeler « Depuis l'Égypte, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». C'est un héritage. Le souvenir, c'est un héritage qu'on oublie rapidement, qu'on balaye, des fois avec beaucoup la notion de la nouveauté. Mais l'héritage du souvenir, c'est tellement important pour Dieu. Se rappeler ce que Dieu a fait, a déjà fait. On oublie souvent ce que Dieu a déjà fait. Et de s'arrêter des fois ensemble, en tant que communauté, et de dire, on se souvient de ce jour, de ce que Dieu a fait. On se rappelle ce jour de ce que Dieu a fait. Je pense que c'est des choses à apprendre aussi, en tant que peuple de Dieu, de se souvenir de ce que Dieu fait. Et là, il y a un signe visible, un souvenir permanent pour le peuple du secours et de la fidélité de Dieu à leur écart. Même dans nos familles, on devrait apprendre à avoir des moments, des jours de commémoration, de se rappeler en famille. Vous vous souvenez de ce qu'on a enduré là? Rappelons-nous tel jour ce que Dieu a fait pour nous. Il y a quelque chose à apprendre là. Et malgré les chutes périodiques d'Israël, Dieu a toujours été fidèle. Il a toujours veillé sur son peuple, dans lequel but de le ramener à lui, de le sauver, même en utilisant la persécution et même dans leur période de désobéissance. La persécution n'est pas toujours liée à l'infidélité du peuple de Dieu pour le ramener à lui. Ce n'est pas toujours comme ça non plus, mais on voit que c'est possible dans l'Écriture. Mais la persécution reste un moyen voulu par Dieu pour que ses enfants se rapprochent et dépendent pleinement de lui, même dans l'obéissance. Même dans l'obéissance. Et là, on va venir sur le témoignage du pasteur Omar. On va venir avec cet homme. Un homme fidèle à Dieu. Un homme qui aime le Seigneur. Un homme qui veut avancer pour la gloire de Dieu. Un homme qui enseigne la parole de Dieu. Mais un homme qui a enduré une violente persécution à cause de sa foi. Vous avez entendu dans le témoignage, il a dit « Attaché avec des câbles et des cordes parce qu'il croit en l'œuvre de Jésus-Christ et il enseigne à d'autres cela. » Je ne sais pas si on ne peut pas réaliser ça en fin de compte. Je pense que c'est impossible qu'on saisisse ce qui est en train de se passer. Cet homme... Cet homme, père de famille, pasteur d'une assemblée, parce qu'il croit en Christ, parce qu'il aime Ça pourrait être moi. Demain matin, en permanence, des personnes arrivent. Je ne sais pas si on arrive à imaginer cette scène-là. C'est impensable pour nous occidentaux ici. Hein. Dans un pays très tranquille, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est des fois la persécution, on ne sait même pas. Mais c'est le quotidien de beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde. Cet homme a expérimenté le secours de Dieu. Cet homme a expérimenté le secours de Dieu. Il y a un homme dans la Bible qui a également expérimenté à plusieurs reprises la persécution à cause de sa foi. Il a aussi expérimenté le secours de Dieu. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. J'aimerais lire une histoire avec vous dans les Actes des Apôtres. Je ne pense pas que je l'ai mise parce qu'elle était un peu longue. Acte 26 au verset 17 à 29. Si vous avez vos Bibles, je pense que ça va être aussi affiché. Mais regardez Acte 26, verset 17 à 29. L'apôtre Paul, qui aussi, hein, il n'a pas changé de nom à sa conversion, il s'appelait toujours Paul, mais on l'appelait avant souvent Saul de Tarse, mais il avait les deux, il s'appelait Saul de Tarse et Paul. Hein. C'était un homme qui était un chef religieux reconnu, très important en Israël, et qui avait pour mission de persécuter l'Église. C'était insupportable pour lui de voir un nouveau mouvement qui est en train d'éloigner ses fidèles religieux juifs à quelque chose de nouveau qui s'appelait le christianisme, qui ne portait pas trop encore ce nom-là à cette époque-là. Et lui, cet homme-là, il était mandaté pour aller dans les villages, arracher les hommes et les femmes, laisser des fois les enfants tout seuls, les mettre en prison, voire tuer. Il respirait le meurtre et la menace, dit la parole de Dieu. Un homme violent, un homme qui a peut-être mis à mort des gens. L'apôtre Paul est un homme qui a peut-être mis à mort des gens. C'est pour ça qu'il parle que certaines nuits, des fois, c'était compliqué pour lui. Mais un homme que Dieu va venir aller chercher sur le chemin de Damas, pendant qu'il va vouloir faire des meurtres ou des arrestations, le Christ va l'arrêter. Et voilà ce qu'il dit, il est emprisonné. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Il est en train de parler à des gens, à un roi et à un gouverneur qui sont devant lui, dans sa prison où il est, et il demande des explications. Donc lui, il explique pourquoi qu'est-ce que c'est son ministère ? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, ce qu'il était lui, et de la puissance de Satan à Dieu. Voilà ce qu'est l'être humain en fin de compte. Hein. Chaque être humain qui pense être libre, qui n'est pas libre du tout, vit dans deux mondes différents, soit dans le royaume de Dieu, soit dans le royaume de l'ennemi. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Omar fait la même chose que l'apôtre Paul au Mozambique. Voilà pourquoi les Juifs sont saisis de moi dans le temple. Et ont tâché de me faire périr. Rien de nouveau sous le soleil. Mais grâce au secours de Dieu, comme Omar, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ, notre référence en fin de compte, souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus, donc le gouverneur romain, dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. C'est un païen, il ne comprend pas tout. » Par contre, on va voir que le juif qui est Hérode, le roi, lui, c'est un peu différent. « Je suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Le roi, lui, il lui dit, « Hérode, toi, tu es instruit dans ces choses. Toi, tu connais ces choses. » Et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Tu le sais, Hérode. Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Agrippa, pardon, là, je pensais. Mais pas c'est une descendance d'Hérode et d'Agrippa. Je sais que tu y crois. Une des phrases les plus perturbantes de l'Écriture. Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir ce que tu es. Faites l'expérience cette semaine d'annoncer l'évangile comme Paul, c'est-à-dire de parler de leur situation face à Dieu, de parler de repentance. Vous allez expérimenter ce que nous ne désirons absolument pas. Être persécuté, être rejeté. C'est humiliant d'être rejeté pour sa foi. Ça nous touche tellement en tant que personne, alors qu'en fin de compte, ils sont en train d'attaquer celui qui vit en nous. Dans son testament, Paul enseigna à Timothée le secours de Dieu face à la persécution. La deuxième lettre à Timothée est souvent appelée une lettre plus personnelle. On sent que c'est fini pour lui, il va mourir. Contrairement à où il était encore dans les petites prisons qu'il va faire à droite et à gauche. Et il dit ceci à Timothée, c'est le Seigneur qui m'a assisté. C'est le Seigneur qui m'a fortifié. Pourquoi ? Pourquoi le Seigneur m'a fortifié ? Afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. C'est ce qu'il était en train de dire tout à l'heure. Le Seigneur est venu me chercher pour annoncer la parole, proclamer la parole. Et il dit, l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru jusqu'ici. Et il dira plus tard, mais ça y est, le combat est fini. Je sais que je pars rejoindre mon Dieu, je le sais. Mais il dit, jusqu'à présent, j'étais délivré de la gueule du lion. La gueule du lion, c'était, y avait pas de, ça n'existait pas, les arènes comme des fois on l'imagine. Par exemple, le Colisée n'existait pas au temps de Paul. Et il faut savoir que même quand Paul en appelle à un empereur, il en appelle à Néron. Il dit, je veux voir qui ? Je veux voir Néron dans les actes. Donc, Néron n'était pas encore un mauvais personnage à une période, il devait le devenir plus tard. La gueule du lion, c'est plutôt l'idée de l'esprit soit de ce monde, soit Satan, soit ceux qui sont sous l'emprise de Satan pour justement arrêter la prédication de la parole. Donc il est en train de dire, voilà, même les gens qui sont au-dessus de moi par leur autorité, qui veulent me faire taire, qui veulent, Dieu m'a protégé d'eux. Tout comme Omar, qui allait être tué, et Dieu a utilisé dans sa grâce ces petites bottes noires qui sont arrivées pour lui redonner du secours, inquiéter les policiers. J'aimerais lire un autre passage dans l'Écriture, 2 Corinthiens 1, 8, 12. On approche de la fin de notre prédication. 2 Corinthiens 1, 8 à 12. Hop, je vais le lire là. L'apôtre Paul qui écrit à cette église de Corinthe, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation ou des persécutions, si vous voulez, qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Il parle de la mort là. Il parle qu'il est dit « ça va être fini ». Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, tout comme Omar, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Juste avant de passer au prochain verset, c'est très fort en fin de compte. Pour Paul, c'était fini. Mais l'objectif de la persécution était dans le but de ne pas placer sa confiance en lui, mais de la placer en Dieu qui est vivant, le Christ ressuscité. C'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera d'une telle mort, autant ici-bas, autant dans l'éternité. Lui de qui nous espérons, qui nous délivrera encore. On peut aller au verset 12. Hop. Vous aussi, vous-même aussi, nous assistons de vos prières afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet malgré la situation difficile. Et verset 12, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » La persécution nous permet de renoncer à mettre sa confiance en soi-même. Mais en Dieu. Ce que j'aime avec l'apôtre Paul et qu'on va voir dans un des derniers versets, C'est que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si vous lisez régulièrement les épîtres de Paul, il a une particularité dans son rapport à la souffrance, à la persécution, qui est toujours liée au Christ ressuscité, à la vie éternelle en fin de compte. L'apôtre Paul est en capacité de pouvoir évaluer ses souffrances à la lumière de la résurrection. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous. C'est compliqué même de comprendre la gloire à venir quand vous êtes dans le dur. Pourtant, pour Paul, cela semble clair. Ça semble faire partie de son quotidien quand vous lisez ses épîtres. Pourquoi ça semble clair pour lui? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'apôtre Paul a compris sur le chemin de Damas qui était le Christ. Damas, c'est quelque chose qui a renversé la vie de Paul. Il a rencontré et entendu le Christ ressuscité. Celui qui pensait qu'il était mort, qu'il ne servait à rien, il a entendu le Christ ressuscité. Si nous avons entendu la voix du Christ ressuscité, si nous sommes nés de nouveau ce matin grâce au Christ ressuscité, alors comme l'apôtre Paul qui était convaincu, la mort est un gain. C'est pour ça que Paul peut écrire ces choses-là et tout ce qu'on vient de lire, si vous avez fait attention, toujours lié à la résurrection du futur. C'est que notre mort, si vous êtes des chrétiens, est un gain pour nous. Dans quel sens c'est un gain? C'est que la persécution n'aura plus lieu d'être. C'est un gain parce que notre corps charnel, où on est fatigué, sera dans la présence de Dieu. Est-ce que cela veut dire que Paul était en train de négliger sa vie ici-bas? Est-ce que Paul voulait se suicider? Absolument pas. Parce qu'il croyait aussi l'apôtre Paul. C'est ça, la beauté de l'apôtre Paul. Les deux raisons, c'est qu'il avait une perspective éternelle. La mort met un gain. Si je suis avec le Christ ressuscité, mais amen, il n'y a rien de plus beau. Mais si je dois rester sur bas, amen aussi, parce que je crois que Dieu peut me secourir, comme il a écrit, comme il a dit au roi Agrippa, comme il a dit aux Corinthiens. Dieu m'a secouru de la gueule du lion. Il est là, il est avec moi. Tout comme Omar l'a dit, Dieu était là avec moi, parce que c'est sa promesse. Ces deux vérités sont complémentaires et fondamentales aussi pour nous aujourd'hui. Les paroles du Christ l'ont saisi. Les paroles du Christ, c'est ce qui a été lu tout à l'heure par la dame dans le témoignage. Vous connaissez, pour moi, je le dis toujours, c'est une des plus belles prédications de la Bible qu'on devrait peut-être lire plus souvent. Jésus dit ceci, c'est Christ qui le dit, c'est notre maître, hein. Ce n'est pas des pasteurs qui ont inventé ces choses-là. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il y a souvent un décalage entre ces versets et la compréhension de ces versets. Ce n'est pas des concepts, c'est le Christ qui parle. Il dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Perspective éternelle. Perspective du fait que Christ est vivant, Christ est ressuscité. La persécution veut nous amener à nous rappeler de l'œuvre de Christ, de qui est Christ encore aujourd'hui dans nos vies. Pour Kamela et Omar, ils ont su considérer la grande fidélité de Dieu dans leur marche. Ils savaient, ils avaient saisi qui était Christ. Malgré deux situations différentes, les deux sont revenus à Christ. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pour nous ce matin, on doit apprendre à se réjouir des délivrances déjà apportées de notre Dieu, de son pardon toujours offert, de sa bienveillance sans cesse démontrée. On doit apprendre aussi, comme on l'a vu dans les différents textes, revenir sans cesse à lui dans l'humilité, la repentance, afin de grandir dans notre foi et notre intimité spirituelle avec lui, malgré les épreuves, malgré la persécution qui peut arriver. On doit aussi apprendre à refléter son secours et sa fidélité à notre entourage et à ce monde qui se perd. On doit refléter cela. Je ne sais pas combien d'années il nous reste dans notre pays pour ne pas passer dans ces 380 millions de chrétiens qui ont été mentionnés tout à l'heure. Mes amis, c'est une question d'années. Hein. Savourons, profitons de notre confort. ça ne va plus être le cas. Les choses se mettent en place progressivement pour vivre ce que le Christ a dit. Pour ce que le Christ a dit. Ce n'est pas qu'il faut être effrayé ni avoir peur. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Elle nous prépare. Elle nous prépare. Nous ne serons sûrement jamais prêts. C'est peut-être une réalité. Mais cultivons déjà ça. Pensons à nos frères et sœurs. L'Église persécutée est un signe visible que jusqu'ici l'Éternel a secouru ses enfants. Et s'il les reprend, c'est aussi un secours en les délivrant éternellement de la persécution. J'aimerais que ce matin, en conclusion, on pense à Kamela et Omar. On prie pour eux, on prie pour leurs frères, leurs sœurs, les sœurs dans la foi là-bas. Qu'on prie aussi pour nous. On va prendre un temps. Chacun puisse s'exprimer librement pour prier. Et puis je demanderai ensuite à Kéran et Johanna de conclure ce temps par la louange. Et puis on se lèvera pour honorer notre Dieu et conclure ce temps de culte ensemble. Voilà, chacun se sente libre de prier, de remercier Dieu, d'intercéder pour nos frères et sœurs aussi.